Vraiment content ce matin de démarrer cette série, cette nouvelle série de messages qui s'intitule « Les prières de la Bible ». Et alors que j'étudiais pour cette série, bien sûr, j'ai passé à travers les différentes prières de la Bible. Et la Bible est remplie de prières magnifiques. Autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, des hommes, des femmes qui ont prié, qui ont répandu leur cœur devant Dieu. Et j'avais de la difficulté à choisir quelle prière de la Bible j'allais choisir, justement, pour prêcher ce matin. Il y en avait tellement des magnifiques. Et j'ai décidé de reculer un peu et de me rendre dans le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, je vais prêcher sur « Prier comme Abraham », qui est un homme extraordinaire dans la Genèse. Et vous savez, le mois de janvier, c'est un mois parfait pour recommencer et prendre des nouvelles résolutions, comme on a vu la semaine passée avec notre pasteur Will, qui a porté des petits papiers. Je ne sais pas si vous avez vos petits papiers, si vous l'avez donné à quelqu'un, si vous êtes toujours dans cette optique-là, je vous invite à le faire si ce n'est pas fait. Et on veut débuter l'année en évaluant où j'en suis dans ma vie de prière, où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Et juste avant d'attaquer le texte où on va voir ensemble une prière d'Abraham, une prière qui est vraiment percutante, que je crois va nous défier, nous percuter. Juste avant, quelques textes par rapport à Abraham, quelques textes classiques pour nous rappeler un peu qui est cet homme. Il est le père de la foi, il est le père aussi de la nation d'Israël, du peuple de Dieu. Il y a ce texte classique-là dans Genèse 12 qui dit ceci, « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dites avec moi, wow! C'est une superbe promesse qui a été faite Abraham. Un autre texte qui nous parle d'Abraham dans Romains 4, verset 17 et les versets suivants nous dit ceci. « Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et ainsi il est devenu le père d'un grand nombre de nations. Hein? Il est reconnu pour sa foi, sa confiance en Dieu. Conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu grâce à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Et dans ce message, on va revoir ces thèmes-là dans quelques instants ensemble par rapport à ces promesses qu'Abraham a reçues et par rapport à sa foi également. Mais ce matin, notre texte, nos textes clés se retrouvent dans Genèse, le 18e chapitre et le 19e chapitre. Et défi ou comme devoir de début d'année, je vous invite cette semaine à retourner dans la Genèse. C'est le premier livre dans votre Bible. Et d'aller lire les textes sur lesquels on parle ce matin dans Genèse 18 et 19. Et si tu as envie, pourquoi pas les textes qui sont autour aussi, toute la vie, toute l'histoire d'Abraham. Alors ce matin, nous attaquons avec Genèse 18, verset 9. Puis, ils dirent, juste avant de vous lire un petit contexte sur les versets 1 à 8 que je ne lirai pas. Ici, dans les versets 1 à 8, Abraham va recevoir la visite de trois hommes. Et ces trois hommes-là sont la représentation de Dieu. Donc, il va carrément s'entretenir avec Dieu qui est là, présent, sous la forme de trois hommes qui sont avec lui. Il va manger avec ces trois hommes, il va s'entretenir avec eux. Il va avoir un moment divin, un moment spécial avec Dieu. Et à ce moment-ci, on arrive au verset 9 qui dit ceci, « Puis ils dirent, où est ta femme Sarah? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et j'arrête ici pour un instant. Il y a ce moment-là divin entre Dieu et Abraham, et Sarah est là en quelque part, cachée en arrière d'un rideau dans la tente. Et on va voir dans un instant, il y a une scène qui va prendre place, qui est assez spéciale. Et elle est là, et là Dieu va parler à Abraham, il va lui dire, la même année, l'année prochaine, je vais faire un miracle pour toi, tu vas être papa, tu vas avoir un fils. Et on sait que c'est le fils de la promesse, Isaac, que Abraham va avoir. Et Abraham, lorsqu'il reçoit cette promesse, il a quel âge? Il a 100 ans. Il a 100 ans. Et sa femme a quel âge? C'est une petite jeunette, une petite jeune plutôt, de 90 ans. D'accord? Donc, il reçoit une promesse. On va voir un peu plus loin que et Abraham et Sarah, les deux, ont ri lorsqu'ils ont entendu cette promesse-là. On va le voir dans un instant. Mais ils ont reçu une promesse formidable, une promesse qu'ils allaient engendrer la vie. Et comme on l'a vu aussi dans, un peu plus tôt, qu'il allait être le père d'une grande nation, une nation royale, duquel même Jésus-Christ va descendre un jour de façon miraculeuse. Il a une promesse qui est faite sur sa vie. Tu vas avoir un fils. Dans un an, quand je vais revenir, tu vas avoir un fils. La promesse lui est faite. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais commencer l'année 2023 avec un rappel que Dieu a des promesses pour chacune de nos vies. Dieu nous aime. Dieu a des promesses de vie, de paix et de bénédiction pour chacune de nos vies. Peut-être que tu dis, oh, mais pas moi. Oui, toi aussi. Si tu te dis pas moi, je te dis oui, toi aussi. Dieu a des promesses de vie. Dieu a des promesses de paix. Dieu veut nous bénir. Dieu veut accomplir ce qui semble impossible pour nous. Quand Abraham a entendu qu'il allait être papa à 100 ans, c'est assez spécial comme annonce. C'est humainement impossible, comme vous savez, mais Dieu est le spécialiste dans l'accomplissement des choses qui sont humainement impossibles. Dieu est capable de faire toutes choses. Il n'y a rien d'impossible pour lui. C'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu de vie, c'est un Dieu de gloire. Et il veut faire et accomplir ses promesses dans ta vie. Il veut te bénir. Est-ce que tu es prêt pour une année de bénédiction? Est-ce que tu es prêt à recevoir les promesses de Dieu pour toi? Pour certains, cette année, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir un conjoint ou une conjointe. Pour certains, cette année, Dieu va restaurer ton couple. Pour certains, Dieu va te conduire sur le chemin de la liberté par rapport à des dépendances qu'il y a dans ta vie. Amen. Pour certains, cette année, Dieu va ouvrir devant toi des projets où tu vas pouvoir briller pour lui et le servir puissamment. Dieu, cette année, veut bénir tes enfants. Il veut accomplir ce qui semble totalement impossible dans ta vie. Il veut cette année t'accorder une paix profonde dans ton âme et dans ton cœur. Il veut cette année sauver des membres de ta famille. Il veut cette année agir, et je déclare une année de promesses, une année où Dieu va agir de façon puissante dans nos vies. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu avait des promesses pour Abraham, Dieu avait des promesses pour sa femme également, et Dieu a des promesses pour toi. Le verset 12 nous dit ceci. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Son Seigneur, c'est son mari dans ce texte-là. Donc à partir de maintenant, toutes mes dames, vous êtes... Non. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Et j'imagine cette scène, ça me fait rire. C'est un moment divin. C'est Dieu qui s'entretient avec Abraham. C'est divin, c'est spectaculaire. Dieu apparaît sous une forme, on comprend pas trop les détails de tout ça. On va comprendre tout ça rendu au ciel, mais il y a trois hommes qui représentent Dieu. C'est extraordinaire, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la communication, la communion. Et là, t'as Sarah qui est là. Tu sais, puis c'est une tente, c'est pas des murs épais, donc... Elle observe, elle est là, et lorsqu'elle entend qu'elle va devenir maman, parce que ça la concerne quand même, la promesse, c'est quand même elle qui va le porter, cet enfant-là, hein, qui va la coucher puis toute la patente, c'est, ça la concerne pas mal. Alors elle est là derrière la tente, elle observe ce qui se passe et quand elle entend la promesse, hein, du Dieu tout-puissant, du Dieu vivant, au lieu de faire « Oh Seigneur, merci », elle part à rire. Elle rit. Des gens ici, vous avez toutes sortes de rires. Ouais, y a, ouais. Je visais personne, mais bon, il y a des gens qui se dévoilent eux-mêmes. Toutes sortes de rires. Et je sais pas de quoi avait l'air le rire de Sarah. Il y a une vidéo l'autre fois que j'ai vue sur les médias sociaux, puis ils ont rassemblé dans une même pièce des gens qui ont tous des rires particuliers. Puis là, ça se met à rire, puis c'est vraiment drôle. Donc, elle est là et elle rit. Pourquoi elle rit? Elle se dit, ben voyons donc, c'est impossible. Et ne soyez pas trop vite à juger Sarah, parce que quelques versets avant, au chapitre 17, verset 17, on voit qu'Abraham aussi, il a ri lorsqu'il a entendu que le Seigneur voulait faire ça avec lui. Les deux, leur réaction, ça a été, ben voyons donc. Et j'ai 100 ans, j'ai 90 ans. Dieu peut-il vraiment faire ça? Ça se peut-tu vraiment? Humainement, ça se peut pas. Et aujourd'hui, devant les promesses que Dieu a pour nos vies, parfois on peut être comme Abraham et comme Sarah, et on peut rire en nous-mêmes. Ben voyons donc, Dieu peut-tu vraiment m'utiliser? Ah ben voyons donc, est-ce que Dieu peut vraiment sauver telle personne dans ma famille qui est tellement dure, qui est tellement difficile, qui veut tellement rien savoir de Jésus? Ah ben voyons donc, est-ce que Dieu peut vraiment le faire? Et j'aimerais te dire ce matin, oui, Dieu peut le faire. Dieu peut agir. Cette année, Dieu a des promesses pour nous, mais il veut également faire naître en nous une foi nouvelle, une confiance nouvelle en lui, qu'il a la puissance d'accomplir ce qu'il promet. Il veut le faire. Il veut agir. Le verset 14 nous dit ceci. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Quelle phrase clé fantastique. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Écoute, l'Éternel a créé l'univers en parlant. Donc, il peut quand même accomplir n'importe quoi qu'il décide d'accomplir. Vous êtes là? Là, il va dire, au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ça aussi, ça me fait rire. Parce que c'est un peu, j'ai pas ri. Oui, t'as ri. C'est sûrement plus dramatique et solennel, mais je me l'imagine comme ça dans ma tête. Et ça apparaîtra pas à l'écran, mais Marc 9, 23 nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et Marc 10, 27 nous dit ceci, Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et ce matin, je veux élargir ta vision. Dieu peut faire des choses grandes, extraordinaires, belles, inimaginables. Une des preuves de ça, c'est notre Église ici. Il y a quelques années, c'était juste l'idée dans le cœur de certaines personnes que cette Église-là verrait le jour. Et aujourd'hui, tu es assis au milieu d'un miracle. On peut applaudir le Seigneur pour ça. On sert un Dieu de miracles, qui a des promesses pour nos vies. Quand j'étais jeune pasteur, je suis encore jeune pasteur quand même, là. Quand j'étais plus jeune pasteur, j'étais à l'Église Nouvelle-Vie, pasteur des adolescents, et à ce moment-là, le Seigneur commençait à déposer dans mon cœur un amour pour, pas seulement mes ados que je m'occupe, mais pour le Québec au complet. Et je partais en vacances avec ma femme, on allait dans différentes régions du Québec, et on était touchés de voir combien il y avait si peu d'églises au Québec. Si peu d'églises. Et le Seigneur commençait à faire naître en moi ce désir-là de contribuer à l'implantation d'églises au Québec. Que le Seigneur puisse nous utiliser. Mais honnêtement, je savais pas comment il allait faire ça. Honnêtement, je savais pas par où il allait le faire. C'était une promesse que le Seigneur déposait dans mon cœur, mais je me disais, mais comment ça va se passer? Où c'est que je vais commencer? C'est quoi que t'as pour moi, Seigneur? J'ai cette promesse-là qui est en moi, mais ça semble impossible. J'ai pas de ressources, j'ai pas d'argent, je sais pas trop comment je ferais. Seigneur, tu mets la promesse dans mon cœur, mais comment tu vas le faire? Je ne sais pas trop. Mais vous savez, Lorsque Dieu te met une promesse dans le cœur, après ça, il ouvre un chemin devant toi. Il ouvre un chemin devant toi. C'est toujours un petit pas à la fois. Dans ma situation, ça a été d'aller voir mon pasteur, d'en parler avec lui. Et on a commencé à faire un plan. Et je suis devenu pasteur adjoint dans une église à Montréal pour continuer à être formé. Et par la suite, un an plus tard, il y a eu un petit groupe de personnes qui ont approché, une dizaine de personnes qui ont approché l'ACF, qui est notre rassemblement d'église, pour dire « On aimerait ça avoir un pasteur, envoyez-nous quelqu'un! » Tu sais, une dizaine de personnes. Et j'ai eu vent de ça. Et moi puis ma femme, histoire longue, une histoire courte, nous sommes déménagés dans Charlevoix. Et à ce moment-là, ma femme était enceinte. Quand on a déménagé, ma femme, nous avions un enfant de 3 mois qui était Flavie. Et on est parti dans Charlevoix et on a entré dans l'accomplissement de la promesse. On a contribué à l'implantation d'églises ailleurs au Québec, dans Charlevoix pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ici avec vous, à Drummondville, Dieu est grand. Quand Dieu nous met un rêve, quand Dieu nous met une promesse dans le cœur, après ça, il y a un chemin. Le chemin, c'est pas toujours le chemin facile, c'est pas toujours le chemin glorieux. C'est un chemin qui parfois a des obstacles, des difficultés, mais le Seigneur, lorsqu'il te promet quelque chose, il va l'accomplir. Croyez-vous ça? Il va l'accomplir, il va le faire. Il va agir. Il est Dieu. Il a des promesses pour vous. Non seulement Dieu a des promesses pour nous, des promesses miraculeuses pour nous cette année, mais Dieu veut te partager son cœur. Les versets suivants nous disent ceci. Ces hommes se levèrent pour partir et se diriger du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa famille, après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et le péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Et ici, on a un texte assez spécial où Dieu s'entretient avec Abraham. Il y a cette phrase-là qui me touche, qui me percute, qui me parle en ce début d'année. « Cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? » Dieu n'est pas obligé de partager ce qu'il fait, ce qu'il désire, son cœur avec nous. Il le fait avec ceux qui lui sont proches, avec ceux qui sont intimes avec lui. Et moi, alors que je lisais ça, j'avais ce désir dans mon cœur d'avoir cette proximité, cette connexion avec Dieu renouvelée en ce début d'année. Nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une série de croyances ou de règles. Nous sommes un peuple qui connaît Dieu personnellement, par la personne de Jésus-Christ, intimement, personnellement. Et être chrétien, c'est pas juste t'asseoir ici, rire de 3-4 blagues, verser 3-4 larmes et repartir chez toi. Être chrétien, c'est une communion vivante avec Christ à chaque jour de ta vie. C'est une relation réelle, véritable, personnelle avec Dieu dans le quotidien de ta vie. C'est ça que Dieu veut pour toi cette année. C'est ça que Dieu veut pour toi, peu importe ton âge, ton arrière-plan, peu importe d'où tu viens, le Seigneur veut connecter avec toi. Il veut être proche de toi. Et en ce début d'année où on va parler de prière, on va parler de comment s'approcher de Dieu, ça commence par un désir dans ton cœur qui dit, « Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai faim de toi. Seigneur, j'aimerais te connaître plus intimement, personnellement. » Est-ce qu'il y en a que c'est votre cœur et votre désir ici, dans ce lieu ce matin? Il y a ce texte, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Jean 15:15 nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Oui, on veut être les serviteurs de Dieu, mais Dieu nous fait le privilège aussi d'être son ami, d'être l'ami de Dieu. Réalisez-vous à quel point c'est puissant. Réalisez-vous à quel point c'est profond. Nous pouvons être ami de Dieu. Bien sûr, peut-être pas les chummies qui font le triple low five comme Piqué Sauban cette semaine, mais on a le respect pour lui, on a une crainte pour lui, mais il y a aussi une connexion avec Dieu qu'on peut appeler amitié. Et une amitié, ça va dans les deux sens. À combien ici pointe personne, regarde personne, mais combien ici t'as déjà eu des amis puis ça semblait aller pas mal juste dans un sens? Hein? Regardez personne. N'est pas là pour l'accusation, n'est là pour le pardon ce matin. Mais parfois, les amitiés, ça va juste dans un sens. Il y en a un qui essaie d'être fin avec l'autre, puis l'autre, il l'ignore. À un moment donné, ce qui arrive là-dedans, c'est que l'amitié ne peut pas marcher. Ça va dans les deux sens, une amitié. Et Dieu veut être ami avec toi. Il veut être connecté avec toi. Un des textes que j'aime le plus dans la Bible, c'est dans Philippiens 3. Et ça nous dit ceci, dans le verset 7. « Mais ses qualités, c'est Paul qui parle, ses qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Le bien suprême pour Paul, ce qui est le plus précieux dans la vie, c'est de connaître Jésus, c'est d'être proche de Jésus. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection d'entre les morts. Et Paul ici nous explique, nous exprime son désir de connexion avec Dieu, de le connaître réellement dans tous les détails de qui il est. Et c'est à ça que j'aspire, moi, en 2023. Pas juste que Dieu me bénisse, que Dieu accomplisse ses promesses, mais que je puisse, moi, me connecter à lui comme jamais. Que je puisse être proche de Dieu comme jamais cette année. Et c'est ma prière pour toi. Tu veux être joyeux, épanoui, tu veux réussir ta vie, rien ne remplace la connexion avec Jésus. Rien ne remplace la communion avec ce Dieu vivant. Rien, aucun bien matériel, aucune somme d'argent, aucun quoi que ce soit d'autre, aucun voyage ne peut combler ta vie comme une communion vivante avec Christ. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je prie pour toi cette année, que tu puisses vivre une communion vivante, extraordinaire avec Jésus. Il y a quelques années de ça, je vais boire une gorgée d'eau. Quelques années de ça, on était chez mes parents, moi et ma femme. Et on est arrivé là-bas avec un petit sac et on a donné un petit cadeau à mes parents. On leur a donné le petit sac. Et là, ils ont pris le petit sac, ils ont ouvert le petit cadeau et ce qui était dans le sac, c'était une suce pour bébé. Et il n'y en avait pas vraiment besoin, eux autres. Là. Mais c'était la façon de leur annoncer que Lison était enceinte et qu'ils allaient devenir des grands-parents pour la première fois. Donc là, ma mère, bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré, c'est certain. Mon père aussi était ému. Ça a été un beau moment. Et quelques mois plus tard, Flavie, ma grande-fille, aujourd'hui, arrivait dans la famille, c'était super. Et des moments comme ça, des moments intimes, on partage pas ça avec n'importe qui. On partage ça avec des gens proches de nous. Vous êtes là? Et l'amitié avec Dieu, c'est ça que ça fait. C'est que Dieu veut partager ce qui est intime pour lui, pas avec n'importe qui, n'importe où, mais avec ceux qui l'aiment réellement. Ceux qui sont intimes, ceux qui sont proches. J'aurais pas été voir quelqu'un dans la rue comme ça, que je connais pas, qui marche, qui s'en va au centre d'achat. J'irais pas donner le petit cadeau de même. Cadeau pour toi. Le gars ouvre le cadeau. Une suce pour bébé. C'est quoi ça? Ça n'a pas rapport. Ça fait pas de sens. On partage ce qui est le plus précieux et ce qui est le plus intime avec nous, avec nos proches, avec nos amis, nos familles, les gens qui sont le plus proches. C'est vrai pour les bonnes choses, pour les bonnes nouvelles, c'est vrai aussi pour les choses plus négatives. On ne va pas dire à tout le monde tous nos problèmes, nos difficultés, nos défis, si on traverse des moments noirs, sombres dans nos pensées, on va se confier à quelqu'un qui est proche, à un ami, à un membre de famille, quelqu'un qui est très proche de nous. Parce que c'est précieux comme information, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on confie notre cœur. Et comme chrétien, il existe un niveau de proximité avec Dieu où toi, tu lui partages ton cœur, mais où lui aussi te partage son cœur, ses émotions, ses pensées. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Dans le texte qu'on voit ici, c'est quand même dur ce qui est partagé à Abraham. Parce que Dieu s'apprête à détruire Sodome et Gomorre à cause du péché. Et Dieu partage à Abraham son cœur et ce qu'il s'apprête à faire. La destruction de Sodome et Gomorre. Donc, ce n'était pas réjouissant. Ce n'était pas un moment de joie, mais c'était un moment intime. Et Dieu nous appelle à cette intimité-là avec lui. Est-ce que vous aspirez à cela? Moi, j'aspire à ça. Oui, Dieu veut, a des promesses miraculeuses pour toi cette année. Dieu veut te partager son cœur. Et troisièmement, nous sommes appelés à prier comme Abraham. Et en Genèse 18, je vais vous lire quelques versets. Verset 22. « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. » Parenthèse ici, nous sommes appelés à nous tenir encore en présence de Dieu, encore avec l'Éternel. Je ne sais pas comment va ta vie de prière, ta vie de communion avec Dieu, mais je t'appelle ce matin. Je te lance l'invitation ou le défi ce matin de te tenir encore dans la présence de Dieu. De retourner à une vie où tu vas prier, t'approcher de Dieu, lui communiquer ton cœur, lui communiquer ce que tu vis. Abraham se tint encore devant Dieu, devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit... Et là, il y a cette prière qui est une des prières puissantes de la Bible. Et là, Abraham va prier, il va dire, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y aura-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Et j'arrête ici un instant, mais... Alors qu'Abraham va commencer à prier et intercéder, on va voir, il va dire, « S'il y avait 50 personnes dans la ville, est-ce que tu détruirais la ville? Ça ne serait pas juste. » Et là, il y a cette prière d'intercession où Abraham plaide auprès de Dieu pour le salut du peuple. Et là, il va dire, « S'il y avait 45 justes, s'il y avait 30 justes, puis là, il va baisser comme ça jusqu'à 10. » Mais vous remarquerez que la prière d'Abraham ici est une prière qui n'est pas « Seigneur, bénis-moi. » Ça m'a touché. Et c'est bien de dire « Seigneur, bénis-moi », c'est pas mal. Tu as le droit de prier ça. Mais la prière d'Abraham, c'est une prière qui dit « Seigneur, épargne le peuple. » Qui dit « Seigneur, sauve. » Qui dit « Seigneur, mon neveu Lot est dans cette ville-là. Sauve-le. » Et en 2023, ce que je prie, c'est que comme Église, oui, on peut prier, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis-moi, moi, c'est pas mal. Mais s'il y a juste ça, il manque quelque chose dans notre vie chrétienne. Il faut, oui, Seigneur, bénis-moi, mais il faut aussi, Seigneur, je te prie pour. Je te prie pour mes parents. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, mes collègues de travail, mes voisins, mes enfants. Je te prie pour les gens qui m'entourent. Je te prie pour ma ville. Je te prie pour Drummondville. Je te prie pour les villes et villages qui sont autour. Je te prie pour. Seigneur, épargne. Seigneur, sauve. Il faut qu'on retrouve cette prière en 2023. Une prière pour les autres. On vit dans une société qui est orientée vers moi, mes besoins, moi. On est froissé rapidement, on est tout rapport à nous. Mais le Seigneur nous appelle à prier comme Abraham. Prier pour les autres. Prier pour notre ville. Retrouver une passion, une compassion dans la prière. Et j'aspire tellement à ça cette année. Je prie que tu entendes ma voix maintenant et que tu captes cette pensée. Que le Seigneur nous appelle à l'intercession, à la prière pour les autres. Verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, si bien que, le sort du juste serait identique à celui du méchant. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et là, je skip quelques versets, j'arrive au verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai, je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Et moi, je prie pour ce cœur qui prie pour les autres, rempli de compassion, d'altruisme, d'amour pour les gens qui m'entourent. C'est vraiment, mais vraiment mon désir. Et on va voir, on ne lira pas ce texte, un texte qui est très difficile, mais on va voir que finalement, comme vous savez, Sodome et Gomorrhe, ces villes, ont été détruites. Il n'y avait pas 10 justes, il y avait juste Lot puis les membres de sa famille qui ont été sauvés. Et Genèse 19, 27, ça dit ceci. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Et les villes avaient été détruites. Les villes de Sodome et Gomorrhe avaient été détruites. Et parfois, on lit la Bible sans réfléchir, là. Mais c'est un des moments très tristes dans toute la parole de Dieu. Un des moments graves. Un des moments où Dieu a exercé sa justice sur un peuple qui était tellement pécheur, tellement éloigné de Dieu. Oui, il a sauvé le juste, mais Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Et ce texte nous rappelle que nous vivons dans un moment, dans les temps de la fin, dans un moment où le peuple qui nous entoure, les peuples qui nous entourent sont un peu comme Sodome et Gomorrhe, sont éloignés de Dieu, sont rebelles envers Dieu. Ils appellent le bien mal. Et lorsque je lis un texte comme ça, ça me rappelle que dans les temps de la fin, à un moment donné, le Seigneur va venir chercher son Église, mais va aussi juger les nations. Et ce que ça crée dans mon cœur, c'est vraiment Seigneur. Seigneur, épargne le plus grand nombre possible. Sauve, Seigneur. Sauve. Et ça me ramène aussi à un sérieux dans ma vie chrétienne. On ne joue pas à l'Église ici. On ne joue pas à faire semblant de quelque chose, à dire des phrases toutes faites réchauffées que les chrétiens disent. Non. C'est vrai ce qu'on vit. Ça nous sauve vraiment de la mort ce qu'on vit. On est vraiment épargné de l'enfer à cause de Jésus. Sa mort à la croix, sa résurrection, un impact réel. Et à un moment donné, Dieu va juger toute la terre. Et ce qui va nous sauver, ce n'est pas nos œuvres bonnes, c'est seulement Jésus qui a pris notre place, qui a porté nos fardeaux, nos péchés. À cause de lui, on va être libre. À cause de lui, on va épargné au jugement, mais qu'on puisse se rappeler que le Seigneur revient et qu'il y a une flamme d'intercession et de prière qui monte en nous pour que le plus grand nombre soit sauvé, que le plus grand nombre puisse découvrir Jésus. Vous là ce matin? Que le plus grand nombre puisse découvrir le Seigneur. J'ai invité les musiciens à s'avancer. Si on regarde au verset 29, ça dit ceci, « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Et c'est une phrase importante dans ce texte-là. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais Dieu a épargné Lot. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu d'Abraham, de la prière d'Abraham, de l'intercession d'Abraham. Aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que la prière, ça marche. Que Dieu veut qu'on vienne devant lui, qu'on prie, qu'on intercède et que Dieu veut sauver le plus grand nombre de personnes possible autour de nous. Et il veut nous utiliser dans la prière. Il veut qu'on puisse être dans la prière, prier pour les gens qui nous entourent afin que le plus grand nombre soit sauvé. Tantôt, je vous parlais de Charlevoix. J'étais là 10 ans de temps. Démarrer une église. Et ma prière, c'était « Seigneur, sauve des gens ici dans Charlevoix. Sauve des âmes. Seigneur, qu'il y ait des gens qui viennent à l'église, qui te découvrent, qui te rencontrent. » Et c'était ma prière, une prière qui revenait, une prière qui était faite avec larmes. Et à un moment donné, je sais pas c'était quand le premier contact avec cette personne-là, je pense que c'était dans un cours de cardio-poussette que ma femme participait. Et c'était le coach du cardio-poussette. Donc, gang de mamans qui courent avec des poussettes, des enfants qui pleurent dans les poussettes. Donc, c'est vraiment formidable. Et d'une façon ou d'une autre, le coach, on l'a invité à l'église. Mais vous savez, des fois, on invite quelqu'un à l'église, puis on se dit, ah, je l'invite, mais il viendra sûrement pas, là. Hein? Est-ce que je suis le seul qui pense comme ça des fois intérieurement? Je l'invite, mais on verra bien, là, mais je serais étonné. Fait qu'on l'a invité, on priait pour lui, comme la prière d'Abraham, on priait pas juste pour nous, on priait pour les gens de Charlevoix, on priait pour lui, on nommait son nom devant le Seigneur. Et je me rappelle le dimanche où il est retenti à l'église pour la première fois. C'était un petit local, vraiment serré. Il est venu avec sa conjointe de l'époque, avec son enfant. Il y avait un enfant à l'époque, je ne me trompe pas. Oui, cardio-poussette, oui, c'est ça, il y avait un enfant. Et quand il est arrivé dans l'église, je suis devenu nerveux un peu. J'étais le pasteur, mais bon, je commençais en église, puis je savais pas trop comment il allait être accueilli, puis comment ça allait se passer. Puis quand tu invites quelqu'un, puis quelqu'un est là pour la première fois, on est stressé, on espère que ça se passe bien, on espère que la personne apprécie ce qui se passe, qu'elle soit pas offusquée, qu'elle nous trouve pas comme une gang de débiles mentales, puis Fait que là, je suis là, puis là, j'ai chaud. C'est moi qui vais prêcher, j'ai toujours chaud. Tu sais, j'ai les mains froides, j'ai chaud là. Et là, j'ai très chaud, OK? Ça crie comme un genre de déluge. Et là, j'ai chaud, je suis stressé. La personne est là pour la première fois dans l'église. Aïe, 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 comment ça va aller? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Comment ça va se passer? Oh! Je lui ai prié pour lui, mais là, il est là. Dans le fond, je l'ai-tu vraiment qu'il vienne? Ou... Je pense que oui. Je prêche, je fais de mon mieux. Je fais une invitation à recevoir Jésus à la fin. Il lève sa main. On prie ensemble. Et aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, il sert encore le Seigneur dans cette église-là. Je parle l'histoire d'une personne. Mais je suis tellement heureux pour lui qu'il ait rencontré ce Jésus que j'ai déjà rencontré moi aussi. Tellement heureux de voir qu'il persévère. Il n'y a pas une vie parfaite, il n'y a pas une vie facile. Il s'accroche à Jésus. Il est là, il ne lâche pas. Et combien d'autres personnes pourraient découvrir Jésus si chacun d'entre nous, on adoptait la prière d'Abraham? Si chacun d'entre nous, on priait pas juste pour nos bobos, mais pour les bobos des autres. Pour les autres, pour les gens qui nous entourent. Et cette année, je te donne le défi de, dans tes temps avec Jésus, dans tes temps de prière, nomme des noms. Seigneur, je te prie pour lui. Je prie pour elle. Nomme des noms. Intercède pour les gens. Et vois Dieu agir par la suite. Vois Dieu répondre à tes prières. Vois Dieu intervenir de façon miraculeuse. C'est impossible? Non, c'est possible. Dieu peut le faire. Dieu l'a fait avec moi. Dieu l'a fait avec vous. Dieu l'a fait avec mon ami dans Charlevoix, qui est devenu aussi un coach pour moi. Il m'a fait souffrir par la suite, moi aussi. Il m'a appris à courir, etc. Mais Dieu veut sauver des gens cette année. Ce qu'on vit, c'est miraculeux, mais ce n'est que le début. Que personne ici ne se dise « Ah, hey, on s'est rendu rapidement à 300 personnes, c'est wow. » Oui, c'est wow. Ce n'est que le début. Il y a 100 000 personnes qui ne connaissent pas Jésus juste à côté. Puis on est appelé à les rejoindre. Puis on est appelé à les gagner pour Christ. Vous êtes là? Que Dieu nous augmente notre foi. En terminant ce matin, on a vu ensemble que Dieu a des promesses miraculeuses pour nous cette année. que Dieu veut nous partager son cœur et que nous sommes appelés à prier comme Abraham, une prière pour les autres, une prière d'intercession. Est-ce qu'on peut juste se recueillir en terminant cette matinée? Fermer les yeux un instant, se recueillir. On va prendre un moment de prière, un moment dans la présence de Dieu. On va commencer l'année au pied du Seigneur. Et mon appel ce matin, j'ai deux appels. Premièrement, si tu es dans ce lieu, tu es ici dans ce lieu, c'est la première fois que tu es là, ou ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu, ou tu viens depuis quelques semaines, mais tu n'as pas encore pris une décision de donner ta vie à Jésus ce matin, j'aimerais te donner l'occasion de le faire simplement, sans fluff là, juste simplement ce matin. Je t'invite pas à changer d'église, joindre une religion. Je t'invite à faire la paix avec Dieu, à recevoir son pardon, à recevoir son amour dans ta vie. Et si tu es ici que tu voudrais te connecter avec Jésus, le connaître personnellement, que tu voudrais lui donner ta vie, tu voudrais lui demander pardon pour tes erreurs, tes péchés, je t'invite là où tu es maintenant à lever une main et à dire, moi, je comprends pas tout, mais ce matin, ça me parle. Quelque chose qui me parle ce matin, puis je veux recevoir Jésus. Donc, si tu es là, je t'invite à lever une main et à dire, je te reçois, Seigneur. Je demande pardon pour mes péchés. Je veux te laisser entrer dans ma vie. Plusieurs personnes qui lèvent la main dans ce lieu. Des hommes, des femmes, des jeunes, des gens de tous les âges. Merci pour vos mains levées. Et dans un instant, je vais prier avec toi. Je vais prier pour toi, pour la décision que tu prends maintenant. Mon deuxième appel ce matin, juste avant d'aller à la prière, serait pour tous ceux dans ce lieu qui voudraient grandir dans leur vie chrétienne cette année. Vous aimeriez entrer dans les promesses que Dieu a pour vous. Vous aimeriez être connecté avec Jésus de façon plus intime comme un ami. Vous aimeriez grandir dans votre vie de prière et prier comme Abraham, prier en intercédant pour les autres. Donc, si c'est toi ce matin, je t'invite aussi là où tu es à lever ta main devant Dieu, à dire, moi, je veux grandir dans ma vie de prière cette année. Je veux être plus connecté avec Jésus. Je veux intercéder pour les gens qui m'entourent. Lève ta main bien haut devant le Seigneur aujourd'hui et dis-lui, Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle ma vie de prière cette année. Fais de moi un homme, une femme, un jeune, rempli de foi face aux promesses que tu mets dans mon cœur. Et en terminant ce matin, on va tous se lever ensemble. Tous se lever ensemble et on va chanter un chant. Mais juste avant de chanter, je voudrais prier pour ceux qui ont levé la main pour recevoir Jésus pour la première fois. Je vais prier pour vous juste avant qu'on chante. Prier pour vous pour ce nouveau départ qui est précieux, qui est important, qui est magnifique. J'ai fait cette prière-là quand j'avais 12 ans, seul chez moi. Et ça a changé le cours de ma vie. Et aujourd'hui, alors qu'on va prier ensemble, ça peut vraiment faire une différence extraordinaire dans ta vie. Je prie pour toi. Seigneur, je te prie pour les hommes, les femmes, les jeunes qui ont levé la main pour te recevoir. Seigneur, qu'ils puissent savoir aujourd'hui que tu les aimes, que tu les pardonnes. Tu les pardonnes, Seigneur. Ils n'ont pas besoin de mériter quoi que ce soit de ta part. Mais Seigneur, alors qu'ils ont levé la main, alors qu'ils se tournent vers toi, qu'ils prient maintenant dans leur cœur, Seigneur, tu les pardonnes, tu les reçois. Tu leur donnes de l'espérance, de l'espoir. Tu leur donnes de la paix. Et Seigneur, tu leur donnes d'être sauvés, Seigneur. Sauvés de l'enfer, sauvés du jugement, sauvés d'une vie sans, qui n'a pas aucun sens. Et tu leur donnes une vie avec du sens, une vie abondante, une vie éternelle également. Seigneur, je te prie pour eux. Je te prie de les bénir. Je te prie que tu puisses venir sceller ce moment dans leur vie, dans leur cœur, maintenant, ce matin. Au nom de Jésus, je te prie pour eux. Amen. Et ce qu'on va faire maintenant, on va louer le Seigneur, on va s'approcher de lui. On peut applaudir le Seigneur ce matin. Je vous invite à rester à vos places un instant encore. La réunion n'est pas encore terminée. Et je t'invite à fermer tes yeux et à profiter de ces instants pour t'approcher de lui.